Factor A. I dream of an angel up there to take. Oh, hang on. Fuck. It's madness. A fucking madness song.
Ça tâtonne, mais ça prend forme ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de jazz, de musique expérimentale, de trio, de chanteurs casqués, de bac et même de disclavier avec le pianiste Édouard Ferlet qui signe un jazz sur piano arrangé en improvisant avec des machines, des disclaviers. Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un artiste qui travaille le son comme une texture et on l'entendra en direct dans le studio avec le contrebassiste Jean-Philippe Viret.
19h30, c'est la chronique Vanity Fair d'Anne Boulay. Ce soir, Anne, qu'avez-vous donc mis à votre programme ? Je crois qu'on ne vous a pas entendu, mais on va le faire.
Un fait divers a ouvert sur moi, c'est mieux là.
C'est parfait ici. Vous avez deux micros, trois micros, parfait. 19h35, plateau Grosse Tête avec Lenny Abrahamson qui réalise Franck, un film entre biopic, comédie fantaisiste, cinéma musical sur un groupe de musique de pop expérimentale sous la direction d'un leader dissimulé sous un énorme masque de carnaval et c'est Michael Fassbender qui joue le rôle. Benoît Lagan.
Quatrième film pour ce cinéaste formé à la philosophie et à la physique. Excellent film proche de l'univers de Michel Gondry. L'occasion pour le réalisateur de se poser la question du rapport de l'artiste à son avatar social.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre bien sûr par le son du jour.
For the first time in the history of the Cannes Film Festival, one film has swept all the major awards. Barton Fink.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme d'habitude, il ne date pas d'hier.
Non, il date de 1991 puisque ce qu'on entend ici, c'est la bande-annonce de Barton Fink qui avait raflé à l'époque la Palme d'Or, le prix de la mise en scène et celui du meilleur acteur au Festival de Cannes et qui avait consacré à l'époque à ces deux réalisateurs, les frères Coen, Joel et Ethan. Les frères Coen qui ont remporté des récompenses aussi à Cannes avec Fargo, Oh Brother, The Lady Killer, The Barber, Inside David Lewis et qui sont à l'origine d'une nouvelle première à Cannes, puisqu'ils vont tous les deux présider le jury de la prochaine édition du festival. C'est la première fois qu'on a une présidence bicéphale à Cannes, somme toute assez logique pour ceux qu'on appelle souvent le réalisateur à deux têtes.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Fin 2014, le géant américain de la VOD, Netflix, annonçait qu'après les séries, il allait commencer à produire ses propres films. Et hier, un autre géant, Amazon, spécialiste cette fois du commerce en ligne, indique qu'il se lance lui aussi dans le cinéma.
Oui, alors tout cela en un peu plus d'un mois et demi, ça bouleverse beaucoup la donne pour le marché du film américain. Alors il faut comprendre que les deux groupes n'ont pas tout à fait la même stratégie. Netflix va donc produire des films a priori plutôt populaires et grand public, des comédies, des films d'action, qui seront disponibles directement et uniquement sur sa plateforme de VOD. Donc si vous êtes abonné à Netflix, vous avez ce film. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le voir.
Ça me paraît complètement cohérent.
Ça paraît très cohérent. Amazon, qui dispose lui aussi aux États-Unis d'une plateforme de VOD, mais pas en France, promet lui de produire 12 films par an, mais cette fois de les sortir dans les salles de cinéma, comme l'explique Pascal Le Chevalier, président du cabinet de conseil spécialisé dans les nouveaux médias et de la VOD What's Hot.
Amazon est obligé de faire comme Netflix, c'est-à-dire de proposer des exclusivités et des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Alors eux, ils choisissent plutôt des films indépendants. Ils vont se concentrer sur une sortie salle, casser la chronologie des médias, puisque 8 à 9 semaines après cette sortie salle, ils vont mettre le film en ligne. La formule est un peu différente, mais globalement, ça va faire de deux gisements de films nouveaux qui vont arriver sur le marché, dans un marché américain qui se renouvelle aussi assez rapidement et de manière permanente, et avec surtout une année 2014 en salle qui n'a pas été très brillante. Donc c'est une façon aussi d'aller rechercher le consommateur, le cinéphile, par un autre biais.
Pour le moment, cette annonce ne concerne pas directement la France.
Oui, parce que donc cette plateforme de VOD d'Amazon Premium Instant Video, elle n'a pas été lancée en France et que même en fait, si elle existait cette plateforme, la France est l'un des seuls pays où la chronologie des médias est encadrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir un film en DVD ou sur une plateforme de VOD avant 12 semaines après sa sortie en salle. Mais pour Sarah Drouot, rédactrice en chef du site Le Film Français, qui s'adresse avant tout aux professionnels de l'audiovisuel, cette annonce d'Amazon pose quand même une nouvelle donne.
Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'ils ont recruté quelqu'un de très expérimenté, qui est Ted Hope, qui avait lancé Good Machine, qui avait notamment produit Tigre et Dragon d'Angli à l'époque. Ils se positionnent comme un nouveau studio, en fait. C'est sûr que par rapport à la chronologie des médias, ils ne pourront pas proposer aussi vite leurs films sur les plateformes, mais ça serait que 3 mois après la sortie en salle. Hein. Au lieu de 8 semaines, ça serait 12 semaines en France. Hein. Donc il n'y a pas une énorme différence. C'est pour ça que la question de la chronologie des médias, pour moi, n'est pas quelque chose de majeur. Ce qui fait peur, c'est l'appréhension de ces géants et qui innovent, et parfois des structures, des filières. On peut le voir dans le livre.
Toute la question maintenant, c'est de savoir si Amazon va réussir son pari dans les salles.
Oui, alors parce que les grands distributeurs de films américains n'ont pas vraiment réagi à cette annonce. Ils sont plutôt, a priori, hostiles au projet, puisque en effet, on peut se poser la question. Ils ont l'impression que les films d'Amazon pourraient être des bides. Pourquoi est-ce qu'on irait voir finalement un film au cinéma si on peut l'avoir 8 semaines plus tard seulement sur une plateforme de vidéo à la demande? Eh bien, pour Pascal Le Chevalier, l'un n'empêche absolument pas l'autre et Amazon fait plutôt un bon calcul.
Je crois que quasiment 90% des films ont terminé leur carrière au bout de 8 semaines. Donc la date avancée par Amazon pour le marché américain, elle est à peu près concordante avec ça, c'est que de toute façon, tous les films, et en particulier les films indépendants, donc les films qui ne sont pas les grands blockbusters du box-office, ont terminé leur carrière au bout de 8 semaines. Donc il est tout à fait logique de dire, je le propose en salle pour ceux qui aiment l'expérience de la salle, le grand écran, le son qui envoie quand même un peu plus que quand on est dans son salon. Et puis, au bout de 8 semaines, pour tous ceux qui n'ont soit pas de salle de cinéma à côté de chez eux, soit qui n'ont pas eu le temps, vont pouvoir en disposer sans rupture de chronologie, sans rupture d'exploitation, simplement dans une logique de prolongement qui s'adapte complètement au monde numérique. Et je veux dire, le véritable enjeu du cinéma, il est là aujourd'hui.
Voilà, alors ce qu'on ignore encore, en tout cas pour la France et pour l'Europe, c'est qui distribuera les films d'Amazon dans les salles. Ce sera probablement des distributeurs nationaux. Mais à ce détail près, cela fera de toute façon d'Amazon le premier acteur non traditionnel à maîtriser quasiment tous les maillons de la chaîne de vie du film.
Alors peut-être un commentaire, je me tourne vers le réalisateur qui était à notre table ce soir, vous êtes irlandais, Lenny Abrahamson, peut-être un commentaire sur cette annonce d'Amazon, comment vous regardez et comprenez cet effet?
I mean, Amazon have been, well, Netflix initially and now Amazon have been
Netflix, puis Amazon ont beaucoup réussi dans l'univers de la télévision. Ils se sont distingués des autres gérants de contenu, c'est qu'ils laissent les responsables de programme faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils n'interviennent pas là-dedans. Donc, je me demande s'ils vont poursuivre avec cette philosophie dans leur action cinématographique. Le modèle de distribution est en pleine mutation et la tentation d'aller sur la plateforme VOD très rapidement est assez forte. À moins de se lancer dans 1000 et quelques salles, il y a des milliers de gens qui pourraient être intéressés à votre film qui n'ont aucun accès aux salles de cinéma. Donc le distributeur se dit, il y a des poches pleines de dollars là, chez les cinéphiles, pourquoi ne pas donner le film sur la plateforme VOD? En VOD, comme ça, ils paieront. Et si cela commence à vider les salles de cinéma, eh bien, l'expérience cinématographique sera diluée. Et ça me fait un petit peu peur.
Zoé, on passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec le parquet polonais qui a recommandé aujourd'hui l'extradition de Roman Polanski vers les États-Unis. Le réalisateur âgé de 81 ans est recherché toujours aux États-Unis pour une affaire de mœurs qui date de 1977. Il est en ce moment même en repérage à Cracovie en Pologne pour son nouveau film sur l'affaire Dreyfus. En choisissant la Pologne, il se croyait à l'abri de toute demande d'extradition et cette décision est plutôt une surprise. La décision finale de la justice polonaise devrait intervenir demain.
Le MoMA de New York York se sépare d'un Monet pour acheter de nouvelles œuvres.
Il s'agit de l'un des Monets les plus admirés de sa collection, les Peupliers à Giverny. Le tableau qui sera vendu à Sotheby's le 3 février prochain est estimé entre 12 et 17 millions d'euros par les experts. C'est la deuxième fois que le MoMA se sépare d'un de ses chefs-d'œuvre phares pour alimenter son fonds d'acquisition, ce qui est, je le rappelle, interdit en France où les collections des musées sont inaliénables.
Une rue de Paris portera le nom de Dora Bruder.
C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dora Bruder, c'est cette jeune fille juive dont Patrick Modiano, au prix Nobel de littérature, a tenté de reconstituer l'histoire dans un de ses livres les plus poignants, qui portait son nom donc. Aidé par Serge Klarsfeld, il avait recueilli le maximum d'informations possibles, c'est-à-dire pas beaucoup, sur cette jeune fille déportée à 15 ans.
La dernière ?
C'est une histoire de nichon, de pudibonderie, de recul sérieux, de la liberté, de la presse finalement, dont je blague, parce qu'en ce moment c'est pas très drôle.
Il n'y aura pas de
nichons ? Ou presque pas. Il y aura des nichons, mais il n'y aura plus de nichons, c'est la fin. C'est une nouvelle qui va faire franchement plus d'un malheureux. Moi-même, je suis malheureuse. Le tabloïd anglais The Sun abandonne l'une de ses traditions les plus appréciées. Une tradition qui ravissait à la fois les Englishmen les plus honorables en chapeau melon, mais aussi, rappelez-vous, les étudiants en anglais que nous étions en collège, puisque souvent nos professeurs nous l'ont montré. Le tabloïd, donc, ne
vous aviez bien de la chance, moi, avec Madame Crocodile, elle s'appelait comme ça, Odile Croc, Crocodile, j'avais pas droit à ça.
Eh bien nous, on avait droit à la fameuse page 3 de The Sun, la fameuse page 3 où l'on voyait donc une jeune femme photographiée seins nus. Alors voilà, selon le Time, qui comme le Sun appartient au groupe de presse de Rupert Murdoch, l'édition du Sun de ce vendredi 16 janvier restera la dernière à avoir montré en pleine page une femme les seins nus. La prochaine aura tout simplement un soutien-gorge. Cette tradition vieille de 4 décennies a longtemps été taxée de sexiste par ses détracteurs.
Oh,
Rupert Murdoch lui-même l'a qualifiée de surannée l'année dernière. Déjà, c'était pas très bon signe. Une pétition pour demander au tabloïd de cesser cette pratique a récolté près de 200 000 signatures quand même. Et les participants à la campagne « Plus jamais de page 3 » ont qualifié cette nouvelle de réellement historique et grand jour pour le pouvoir citoyen quand même. Mais l'on apprend qu'une nouvelle pétition qui produit le retour de la page est apparu hier sur la toile et qu'il a déjà une petite centaine de signatures.
101, la mienne. Oui, Lenny Abrahamson.
Il y a quelqu'un qui a tweeté que la page 3 a quitté le Sun maintenant et il faut retirer les 49 pages restantes du Sun.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités ou qui voudraient réagir sur d'autres sujets ? Non, je les regarde, je les fixe, comme à l'école. Personne ne bouge. Allez, on commence.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau 10 claviers avec vous, Édouard Ferlet. Vous êtes pianiste de jazz, vous avez signé plusieurs albums avec le trio du contrebassiste Jean-Philippe Viré qui vous accompagne ce soir. Et vous êtes à l'affiche du festival Beyond My Piano qui se tient ce week-end à la Maroquinerie et au Bouffe du Nord à Paris et qui se présente comme un festival de pianistes affranchis. Vous, vous vous êtes affranchi de quoi ?
Alors, je ne sais pas si c'est affranchi, comme, je ne le vois pas vraiment comme ça, le festival. Pour moi, c'est une façon d'exposer le piano d'une autre manière, c'est-à-dire d'aller plus loin que l'instrument du piano et d'essayer de le faire sonner presque comme un autre instrument et oublier justement l'aspect traditionnel du piano. C'est comme ça que moi, je le vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu travailler sur une création avec ces trois pianos et avoir une vision différente de celle que j'ai quand je suis seul en train de travailler dans ma cave.
Alors justement, dimanche, vous allez donner une pièce intitulée 88 cubes, un spectacle avec trois instruments, un piano et deux disclaviers. D'abord, un mot sur cet instrument, le disclavier. C'est un instrument qui avait été inventé par Yamada en 87, je crois.
Ça a été inventé au début du XXe siècle.
Ouais.
En fait, c'est un piano automatique. C'est une histoire absolument incroyable parce que le piano mécanique est né pas longtemps après le vrai piano moderne, on va dire. Et en fait, a permis aux gens d'avoir de la musique dans leur salon. Il existait avant le phonogramme et le seul moyen pour écouter de la musique était d'acheter un piano mécanique avec les rouleaux qui allaient avec, c'est-à-dire en choisissant les musiciens, les compositeurs qu'on voulait, Art Tatum, Fauré, James P. Johnson. Et il y a une époque, il y avait même plus de ventes de pianos mécaniques que de pianos traditionnels. C'est incroyable de penser ça aujourd'hui. Et quand le phonogramme est arrivé, ça a tué les ventes de pianos mécaniques. Et c'est là où on peut comparer cette arrivée du phonogramme comme le CD ou le numérique en fait, qui a tué la musique vivante.
Lenny Abrahamson, il est question de musique tout à l'heure, on en parlera dans votre film. Vous connaissez cette histoire du piano mécanique et du disclavier ?
Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais c'est très intéressant. Et dites-nous en davantage.
Bah, ce qui est incroyable, moi je me suis justement posé la question sur l'histoire de ces pianos, parce que c'est né aussi au début du jazz, c'est-à-dire qu'au début du ragtime, au début du XXe siècle, ces pianos sont apparus. C'est pour ça que plein de jazzman ont enregistré des rouleaux là-dessus, parce qu'il n'existait pas encore de phonogramme. Donc on a plein de traces originelles, en fait, des pianistes qui jouaient vraiment. C'était eux qui jouaient vraiment. Donc on a vraiment l'impression que c'est comme un hologramme musical, un hologramme sonore. Quand on voit les touches jouer, on peut s'imaginer le pianiste à l'époque vraiment l'enregistrer. Même s'il y avait des techniques qui n'étaient pas encore au point au niveau du toucher comme ça l'est maintenant. Mais en effet, Yamaha a développé ce système-là, a récupéré d'ailleurs même certains rouleaux qui ont traduit en disquette à l'époque, maintenant en CD, en tout cas en numérique. Et donc c'est assez fascinant. Et moi, ça me permet aussi dans mon travail que je fais depuis un petit bout de temps de mélanger le classique et le jazz. Parce qu'évidemment, il y avait des compositeurs classiques, des musiciens, des pianistes classiques comme Fauré qui a enregistré aussi sur des rouleaux qui n'ont pas connu le phonogramme. Donc on a des traces de Fauré sur des pianos mécaniques où il jouait, c'était vraiment lui qui jouait. Et je trouve ça assez touchant. Donc j'ai voulu essayer de rassembler un petit peu cet univers dans une musique contemporaine d'aujourd'hui, en fait.
Lucille Comeau.
Du coup, pour cette pièce, vous êtes, si j'ai bien compris, seul sur scène à un piano traditionnel avec deux autres instruments qui, eux, sont automatisés. Comment vous improvisez, puisque c'est ça votre matière principale, c'est l'impro avec des machines qui, j'imagine, sont programmées.
Il y a plusieurs modes de jeu, en fait. Alors, il faut aussi que j'ai vraiment envie de citer Joachim Oloya, avec qui je travaille, avec qui on travaille à deux, qui compose aussi. Il y a un silent, un piano silent, qui est un piano qui envoie tout à fait normal, mais qui envoie des données aux deux autres pianos qui sont, eux, mécaniques. Donc, je suis un peu le pilote sur ce piano-là, qui est le piano maître, et ça envoie sur les deux pianos droits. Il y a une partie qui est programmée à l'avance, que j'ai des nouvelles compositions que j'ai programmées, mais il y a toute une partie improvisée, c'est-à-dire que quand je joue, par exemple, je vais jouer un accord, et ça va passer par l'ordinateur de Joachim, qui va faire des arpèges, ou qui va faire des accords répétés, ou alors moi, je vais faire des accords, et lui, il va les traduire ou inversement, je vais faire des gammes, il va les traduire en accords. Donc, il y a toute une partie aussi dans le concert qui est en direct. Et c'est ça qui est incroyable, les pianos me répondent. Et un petit peu d'une manière assez pertinente, parce que c'est Joachim qui fait aussi répondre les pianos, un peu de la manière dont je vais jouer. Donc c'est assez étonnant de jouer contre soi-même, en fait. C'est un peu ça.
Lucille.
Vous avez déjà joué sur les possibilités des techniques du piano. D'ailleurs, on l'entend dans vos albums, des cordes pincées, tapées. On verra, vous avez un petit peu trafiqué le piano quand vous allez jouer tout à l'heure. Sur quel piano vous jouez, vous, chez vous? Votre piano favori.
Alors, j'ai la chance de jouer sur deux grandes marques. La première, c'est Yamaha et Steinway. Donc, j'ai la possibilité de goûter à ces deux univers sonores.
Comment vous les qualifieriez, ces deux univers sonores?
Yamaha permet l'évolution du piano, de la mécanique du piano. Parce que le piano, c'est de la mécanique, c'est comme une voiture. D'ailleurs, on parle de capot, on parle de pédale, comme une voiture. Et ça a besoin d'être amélioré avec les technologies nouvelles, avec des matériaux nouveaux. Et je vais peut-être me faire engueuler par les gens de chez Steinway, mais eux, ils ont un standard qui marche très bien et je n'ai pas l'impression qu'ils essayent de s'améliorer, de se perfectionner. Alors que Yamaha trouve des nouveaux matériaux et les insère dans leur piano qui deviennent beaucoup plus agréables à jouer et avec beaucoup plus de potentiel pour des pianistes contemporains qui ont une technique différente d'il y a 100 ans, quand les pianos ont été inventés. Donc c'est pour ça que moi, je me suis tourné vers Yamaha, qui me soutient dans toute mon activité musicale, parce que je vois là un espèce d'accompagnement adéquat, quoi, qui correspond vraiment à un pianiste moderne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, avec les nouveaux pianos qu'ils ont, les CFX, c'est des pianos grand queue qui font donc concurrence au Steinway grand queue. C'est un nouveau son. Et donc pour nous, on a un nouveau champ libre pour créer un nouveau son, alors que le son Steinway est très connu. On a vraiment le son Steinway dans l'oreille, un son très, très droit comme ça, très beau. Mais là, ça permet d'avoir un champ neuf et de se sentir créateur.
Alors on va vous écouter tout de suite avec votre contrebassiste Jean-Philippe Viré dans une de vos compositions communes, Laps, un extrait de votre nouvel album L'Ineffable qui est paru chez Mélis.
Qui est paru en trio, je précise aussi que le batteur qui malheureusement n'est pas là ce soir s'appelle Fabrice Moreau. On vous écoute tout de suite, Édouard Ferlet, Jean-Philippe Viré, c'est à vous. Thank you. Cette piano, Jean-Philippe Viret, ils étaient tous les deux dans le studio 108 de la Maison de la Radio. C'était L'Apse, un titre qu'on peut retrouver sur le dernier album du trio Viret Fer Les Moreaux, L'Ineffable, paru chez Mélisse.
Abraham, Lenny Abrahamson, je vous ai vu prendre des notes. C'est au sujet de ce que vous venez d'entendre.
Lots of different things.
Je note plein de trucs. Très belle musique. Et puis la belle musique, ça me fait toujours réfléchir, ça me fait penser à plein de choses.
Vous êtes musicien vous-même ?
Mauvais musicien. J'ai joué dans des mauvais groupes.
Du rock ?
Très mauvais groupe.
Kind of blues,
une sorte de rock, blues, jazz, une sorte de gloobie boulga, assez... pas terrible, bon voilà.
Lucille.
Tous les deux, Jean-Philippe Viret et Édouard Ferlet, vous vous connaissez depuis 2000. Vous avez enregistré en trio plusieurs albums, composés même ensemble. D'ailleurs, c'était un morceau que vous avez composé tous les deux. Qu'est-ce que ça suppose techniquement de composer à quatre mains ? C'est assez rare dans le jazz, Jean-Philippe Viret.
C'est la première fois qu'on fait, en l'occurrence pour cet album. Jusqu'à présent, sur les 6 albums précédents, chacun amenait une composition et on l'a travaillé ensemble et on l'orchestrait, on l'arrangeait jusqu'au point où on était vraiment content du son d'ensemble. Pour cet album, Edouard avait très envie de ça depuis un petit moment, qu'effectivement on fasse une composition, qu'on signe une composition commune. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il amène une ligne de basse. Et
puis, c'est lui qui amène quelque chose.
Il amène une ligne de basse et moi, ça m'évoque une mélodie et puis il répond après.
J'avais écrit une mélodie par-dessus, c'est un espèce de...
Le cadavre exquis ?
C'est un peu exactement ça.
Oui, un petit peu ça.
Un cadavre exquis, exactement, ouais.
Donc... C'est très naturel en fait, c'est un travail qui évolue.
C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on connaît bien aussi nos habitudes et on a là pour habitude déjà depuis plus de 15 ans d'écrire pour l'autre. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment ça va sonner, on sait qu'il est à l'aise là et qu'on peut se permettre d'écrire des choses qu'on ne pourrait pas écrire pour d'autres musiciens.
Par exemple, votre contrebassiste est à l'aise
Je sais qu'il joue exceptionnellement bien de l'archet pour un contrebassiste de jazz et qu'on peut se permettre de jouer avec ses couleurs d'archet, avec des effets sur la basse. Donc ça, je sais que je peux lui écrire des mélodies dans les aigus et des choses...
Et de votre côté, Jean-Philippe
Mon côté, ce qui est le plus important, je crois que c'est la connaissance humaine aussi. Bah, évidemment, il y a la connaissance de l'artiste, du pianiste et du batteur. Mais il y a aussi cette aventure qui... ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble avec Edouard. Fabrice Moreau nous a rejoints il y a 8 ans. Et cette aventure humaine, elle est, on partage les mêmes quêtes musicales. Et on est en quête d'inentendu. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Et donc, on est à l'affût, on essaie de se provoquer un petit peu, on essaie d'aller plus loin toujours, et tout en restant nous-mêmes, et puis surtout avec beaucoup de confiance. Et puis, je crois même, je vais employer le mot amour. Voilà.
Vous ne vous refusez rien.
Non, au bout de 15 ans, soyons.
Lucille.
Édouard Ferlet, vous avez commencé comme beaucoup de pianistes de jazz qu'on a déjà reçus ici par une formation classique au conservatoire, puis vous avez fait plusieurs stages de jazz pendant cette formation-là. Qu'est-ce que vous alliez chercher du côté du jazz que justement vous n'aviez pas avec
J'étais en fait assez... J'ai fait les deux en même temps. En fait, j'ai pas fait... Moi, je suis vraiment plutôt pianiste de jazz. Et j'ai commencé très tôt en fait à composer. En fait, je me souviens, à 7 ans, je me mettais sur le piano et j'avais pas peur de composer les petites mélodies. Et à vrai dire, j'essaie de retrouver ce moment-là encore maintenant, de me dire que je peux me permettre de composer ce que je veux, que ça soit compliqué, simple. Et c'est vraiment des émotions. Je me souviens encore de ces émotions-là. Je suis devant le piano et je suis d'une liberté folle. Je peux faire jouer 2 notes, 3 notes comme ça. Et j'essaie vraiment de retrouver ça. Et après, avec le classique, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le travail des compositeurs classiques. Donc, je me suis beaucoup inspiré de la façon de composer, l'esthétique. Et maintenant, on peut s'apercevoir que le monde du jazz et du classique est vraiment réuni. C'est-à-dire qu'il y a plein de pianistes jazz qui jouent du classique, et des pianistes classiques qui jouent du jazz. Et les compositeurs aussi jouent entre les deux répertoires. Donc maintenant, il n'y a plus de frontières entre cette musique-là. Ce qui compte, c'est l'inentendu, la nouveauté. Et je pense qu'on est tous ensemble là-dessus.
Vous partez à Boston au début des années 80. À cette époque, ce n'était pas possible de se former au jazz en Europe.
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'écoles comme il y a maintenant, surtout le Conservatoire supérieur de Paris. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école vraiment solide qui permettait de faire un cursus vraiment important. Et en allant là-bas, j'ai eu la chance d'avoir une bourse.
Berklee, c'est ça ?
Oui, Berklee. College of Music à Boston, et là j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour travailler là-bas, et là je suis arrivé dans un univers incroyable, c'est-à-dire une vie la vraie vie, mais dans un cadre universitaire. Et pouvoir se permettre de faire des hautes études de musique, mais dans un cadre sérieux. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de rencontrer plein de musiciens. Moi, ce qui m'a vraiment plu là-bas, c'est de rencontrer plein de musiciens étrangers et d'arriver à faire ces rencontres-là, que je fais encore maintenant dans la vraie vie, on va dire. Et ça a été pour moi une très très belle aventure.
Et vous de votre côté, Jean-Philippe Viret, à la contrebasse, c'était en France ?
Oui, moi je suis en France et moi je dirais que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé la musique tardivement, à 18 ans, et que moi j'ai appris j'ai appris mon métier vraiment sur le terrain. J'ai appris la musique en jouant avec les autres. Et je dois dire aussi qu'à l'époque, justement, au début des années 80, fin 70, début 80, c'était possible d'apprendre en jouant. On n'était pas obligé de passer par une école. Ce qui est beaucoup plus dur pour les jeunes musiciens d'aujourd'hui, qui quasiment n'ont pas le choix. Mais les musiciens de ma génération, on allait jouer dans des bars, on allait jouer dans des restaurants. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à Paris, pour me payer le conservatoire, j'ai joué pendant un an dans un cabaret à Montmartre. Le soir, je jouais de 9h à 2h du matin. Et dans la journée, je travaillais mon instrument et j'allais au conservatoire.
Lucille Comeau.
Édouard Ferlet, comme tous les jours, on demande maintenant à nos invités d'amener un son. Et vous, vous avez choisi quelque chose qui ressemble à ça. Identification de ce son.
Voilà, enfin, en fait, bon, merci d'avoir reconstitué le son que je n'ai pas pu retrouver dans
alors,
les
qu'est-ce
multiples
que c'était
disques durs. En fait, c'est lors d'une tournée en Chine, je suis tombé dans un taxi avec une femme taxi qui évidemment téléphonait en même temps de me conduire à l'endroit où je devais aller. Et j'écoutais vraiment son son. Bah, déjà, évidemment, on est surpris par une langue qu'on ne connaît pas, mais c'était vraiment musical. Et évidemment, il y a plein de compositeurs qui ont utilisé ça, justement, les sons, les sonorités, mais ça m'a vraiment surpris. J'ai tout de suite pris mon petit enregistreur, je l'ai enregistré et j'ai utilisé ça pour faire une composition parce qu'il y avait vraiment un sens du rythme comme ça et aussi une mélodie. Et ça m'a vraiment inspiré une composition, une source.
Le rendez-vous, la chronique.
On vous retrouve tous, Édouard Verlet, Jean-Philippe Viret, Lénie Abrams, dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Vanity Fair. Dan Boulet, et ce soir
c'est
au
moi.
Programme, et oui, c'est vous, et ce soir au programme, qui en est la rédactrice en chef, c'est Van Gogh.
Alors oui, vous voyez à peu près qui est Vincent Van Gogh.
À peu près,
voilà, il fait des posters pour le magasin Habitat. vous savez sûrement aussi qu'il s'est suicidé au Vert-sur-Oise en
aussi.
Juillet 1890, à l'âge de 37 ans, après s'être coupé une oreille et avoir peint des champs de blé que survolent des tas de corbeaux prémonitoires. Sauf que, il y a 3 ans, 2 historiens de l'art américains ont émis l'hypothèse que Van Gogh ne s'était pas suicidé, mais avait été tué. Aucune théorie du complot derrière cette supposition, mais l'analyse des rares témoignages de l'époque. Alors pour ceux qui auraient loupé le début, le peintre s'est donc officiellement tiré une balle dans le flanc le 27 juillet, puis n'étant pas mortellement atteint, s'est traîné sur plusieurs kilomètres jusqu'à sa chambre. L'arme n'a jamais été retrouvée, ni la moindre lettre d'adieu, alors qu'il a passé plus de temps à écrire qu'à peindre. Il est finalement mort des suites de ses blessures le 29 juillet. La gendarmerie a bâclé l'enquête et n'a fait aucun rapport. C'est peu dire que les deux Américains se sont fait ricaner à la face par les experts en Van Gogherie. Mais persuadés que la légende du peintre d'Arc est trop belle pour être vraie et que c'est la faute à Kirk Douglas et Vincente Minnelli si tout le monde a envie d'y croire, ils sont repartis à la chasse aux preuves.
Et ils en ont donc trouvé.
Cette fois, ils ont soumis les maigres preuves médico-légales et les descriptions assez précises des blessures du peintre par le fameux docteur Gachet, qui a également son poster chez Habitat, à un expert en blessures mondialement reconnu. Le légiste est formel. Et je vous épargne les détails, compte tenu de la trajectoire de la balle, il aurait fallu que Van Gogh soit contorsionniste et non peintre pour s'auto-infliger cette blessure au ventre qui en plus n'a manifestement laissé aucune trace de poudre.
Alors, s'il ne s'est pas suicidé, qui l'a tué ?
Excellente question, Laurent. Si Van Gogh n'a pas mis fin à ses jours, personne ne conteste qu'il était au minimum un petit peu tourmenté comme garçon, voire carrément bizarre, ce qui lui attirait pas mal d'ennuis, notamment à Auvers-sur-Oise, avec une certaine jeunesse dorée parisienne qui trompait son ennui en lui faisant des misères, comme par exemple mettre du piment sur les pinceaux qu'il mâchouillait en cherchant l'inspiration. C'est vrai, c'est avéré. C'est donc, selon les experts, un de ses fils de notable qui aurait accidentellement tué le peintre en jouant avec un pistolet, en voulant imiter Buffalo Bill, qu'il avait vu sur scène à Paris l'année précédente, car souvenez-vous, Buffalo Bill a quasiment fini en danseuse du Crazy Horse. Alors plein d'autres détails troublants dans Vanity Fair qui sort demain, avec le très beau Clint Eastwood en couverture.
Le rendez-vous.
What is that?
I think it's called the Idiot Tree.
C'est très très beau. Such pain.
Hey.
Such emptiness.
Hey!
Y a quelqu'un à la porte, là?
Plateau Grosse Tête, mais pas sur RTL ce soir. Avec vous, Lenny Abrahamson, cinéaste irlandais. Un parcours qui a commencé il y a 10 ans avec votre premier long métrage, Adam et Paul. Le 4 février prochain, vous sortirez en salle votre 4e film, Frank, dont on vient d'entendre une ambiance en ouverture du plateau. Un film au croisement de plusieurs registres, le biopic, le film musical, la comédie fantaisiste et le bizarre. Benoît, l'histoire en quelques mots ?
Eh bien, c'est l'histoire de John, jeune musicien irlandais qui se rêve en pop star et qui se retrouve embarqué dans un groupe de pop avant-gardiste plutôt obscur. Il se lance alors dans l'enregistrement d'un album plus qu'expérimental avant de prendre la route pour un important festival de musique au Texas. Le leader et le génie de ce groupe, c'est Frank, joué par Michael Fassbender. Et il a une particularité, il vit dissimulé en permanence sous un masque énorme, une sorte de grande tête toute ronde de carnaval.
Alors la première question, c'est Michael Fassbender, donc la star des films de Steve McQueen, Hunger, Shame, qui joue Frank. Alors même qu'il est caché sous cette masque quasiment pendant tout le film, qu'est-ce qui a été l'enjeu d'un tel choix pour vous ? Vous auriez économisé beaucoup, j'imagine, en prenant quelqu'un de beaucoup moins connu, Lenny Abrahamson.
I suppose the simple answer is it takes a very
en fait,
fine actor.
Il faut un très bon comédien,
a very charismatic actor to
un comédien très charismatique pour être bon même en portant un masque.
I did think about casting for quite a while. I thought about casting an unknown actor, but
j'avais envisagé de choisir un inconnu. Mais trouver un inconnu capable de jouer ce rôle, c'est quand même ardu. Par ailleurs, il y a eu ce plaisir pervers que j'ai ressenti à cacher un visage aussi connu et aussi beau que celui de Michael Fassbender. C'est une espèce de revanche de l'adolescent boutonneux que j'étais.
Comment vous avez travaillé avec Michael Fassbender sur son jeu et en particulier ses mouvements qui seuls traduisent ce que peut ressentir le personnage puisqu'on ne voit jamais son visage ?
Well, I mean, you know, there's a great history of people working with masks in drama.
Bon, les masques, c'est pas la première fois qu'on travaille cela, notamment au théâtre et dans le domaine de l'animation, par exemple. Avec un tout simple dessin, on peut arriver à émouvoir les gens très profondément. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, même si le visage est caché. Avec Michael, on a beaucoup parlé du personnage, comment ce personnage bougerait, l'espèce de marionnette que l'on ressent dans certaines scènes du film. Et on s'est mis au travail. Alors, on peut évidemment parler, mais ce qu'il y a de mieux, c'est d'essayer d'éprouver les choses jusqu'à ce que l'on trouve les formes et les mouvements qui sont tout à fait logiques et qui marchent bien.
Vous avez travaillé à partir d'images ou à partir de films pour qu'il puisse justement composer le physique, la démarche et la silhouette de son personnage ?
Strange things like
il y a eu des choses étranges. Par exemple, des films d'animation obscurs d'Europe de l'Est avec des mouvements un petit peu saccadés de la part des personnages. On ne s'est pas tellement servi de films. On a regardé des musiciens, on a regardé des choses qui étaient pertinentes pour le personnage de Frank. Et puis sinon, c'est ce que fait un très bon comédien, c'est qu'on a travaillé à partir du scénario et on a ainsi bâti le personnage. Donc, on a beaucoup inventé, en fait.
Benoît Lagan.
Le film est totalement fantaisiste, mais il se base sur l'histoire d'un personnage créé par Chris Sivé, un chanteur pop anglais et comédien mort en 2010. Et dans les années 80, il avait conçu pour la télévision ce personnage masqué, Frank Sidebottom. D'ailleurs, si on va sur Internet, sur les plateformes, on peut voir le pilote de son émission. Qu'est-ce qu'a représenté ce personnage de Frank pour en faire le centre de votre film, pour vous ?
Well, Chris Sivé was one, you know, a great British eccentric.
C'était un excentrique britannique formidable. C'était vraiment un pionnier, un créateur punk, un esprit tout à fait hors du commun. Et il a eu plusieurs carrières. Il a fait du punk, il a fait des arts de la performance, et puis il a créé ce formidable personnage de Frank Sidebottom, qui est un personnage affable, simple et fort gentil. C'est un personnage qui ressemble au Frank de mon film, avec quelques différences, certes, mais ce personnage est devenu un phénomène à la télé britannique. Moi, gamin, je me souviens l'avoir vu à la télévision. Il faisait des émissions pour enfants et puis il est devenu un héros culte dans le nord de l'Angleterre. Et dans son groupe, il y avait Michael John Rodson, qui est devenu écrivain et journaliste assez connu au Royaume-Uni. Et c'était donc le début du projet. Mais je n'allais pas faire un biopic sur Frank Sidebottom. Ce n'est pas un personnage réel. Et Chris Sivi, qui a créé ce personnage, ne voulait pas être décrit cinématographiquement. Donc, j'ai voulu prendre cette image, puis improviser. C'est un petit peu ce dont on parlait avec ces musiciens de jazz. On improvise en utilisant ce matériau qu'est le personnage pour créer quelque chose de tout à fait fantaisiste et fantastique. C'est ce que nous avons fait dans le film.
Edouard Ferlet, je crois que vous avez vu le film. Qu'est-ce qui vous a marqué dans
J'ai beaucoup
dans cette
aimé cette atmosphère, justement, quand ils sont dans la maison et qu'ils sont en train d'essayer de créer cet album-là. Alors, on a l'impression que c'est des choses qui arrivent que dans la pop musique, justement, de s'enfermer pendant un mois et de se remettre en question personnellement. Mais juste pour vous dire qu'on le vit vraiment aussi en jazz. En tout cas, Jean-Philippe et moi, on l'a vécu. Et moi, je le fais souvent parce que je fais de la direction artistique sur mon label. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je me disais, j'aimerais bien un jour pouvoir retranscrire ça aux personnes, exprimer cette émotion qu'on a quand on doit enregistrer et qu'on doit tout donner de soi-même. Et voilà, ça existe aussi en jazz et je pense aussi en classique. C'est des moments vraiment précieux et extraordinaires qui nous remettent en question humainement, quoi, complètement. On est vraiment, quand il y a un micro, bon là, c'est pas complètement le cas parce qu'il y a un micro, mais on se sent vraiment tout nu. Il y a des moments où on sait plus quoi faire. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là.
Lenny Abrahamson.
Merci. Oui, je crois que c'est vrai pour tout travail créatif lorsque c'est quelque chose de qualité. Et dans le cinéma, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de pression due à l'argent et au délai qu'il faut respecter. Et il faut vraiment créer ces espaces dans lesquels on peut se lancer dans des expériences et on peut tenter des choses, quitte à se planter, détester ce que l'on fait, se poser des questions et ainsi de suite. Ça, c'est difficile, ça, dans le cinéma. Et donc, moi, ce passage dans le film, ça relate un fantasme que j'ai dans le domaine du cinéma. Je voudrais avoir le temps et l'argent pour lancer des expériences et créer des choses. C'est intéressant de vous entendre parler de la façon dont vous créez, vous travaillez vos pianos et vous faites ces disques claviers. Parce que ça, c'est vraiment le cœur, la racine même du travail créatif. Et pour autant, dans le monde de l'art, c'est difficile de trouver cet espace.
En musique, c'est qu'on peut créer assez rapidement, assez facilement les projets qu'on a en tête. On réunit les musiciens, on se réunit et on organise un concert qui peut arriver un mois ou deux mois après. Il n'y a pas d'enjeu financier et c'est vrai que c'est vraiment une chance énorme pour nous de pouvoir faire ce qu'on veut assez rapidement, sans contrainte.
Frank, c'était formidable pour moi quand même parce qu'on a construit la musique de cette façon. La musique, on l'a créée de manière étonnante avec Stephen Ranks, compositeur incroyable, et l'équipe du tournage du film avec les comédiens. Et c'était un privilège pour moi de travailler comme ça, à la fois le film et la musique. En tant que réalisateur, je travaille sur des projets importants, mais aussi sur des projets plus modestes où je suis libre d'agir comme je veux.
La bande-son est vraiment extraordinaire dans ce film-là, parce qu'on sent vraiment ce naturel, que c'est pas tout prévu comme on voit dans les films où tout est organisé. J'ai beaucoup aimé la bande-son.
Et donc, à propos de bande-son et de musique, chaque soir, nous demandons à nos invités un son qui les a marqués. Et voici ce que vous avez choisi. Ça a un lien, bien sûr, avec le film.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Leur identification de ce son et sa signification, Lenny Abrahamson.
Il s'agit de Daniel Johnston,
songwriter and singer.
Compositeur, chanteur, américain. Il a enregistré ça il y a une vingtaine d'années, je pense. Daniel Johnston fait encore de la musique, mais c'est quelqu'un qui a eu une grosse dépression nerveuse. Il a eu des troubles mentaux, il se bat contre la maladie mentale, mais malgré tout cela, il a créé des chansons à la fois naïves et très belles. Moi, ce que j'aime, et du reste, il y a un lien avec Frank, parce qu'évidemment, il influence Frank, de même que Captain Beefheart, Syd Barrett, ou Harry Parch. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand compositeur américain. Mais pour revenir à Daniel Johnston, il travaille de manière tout à fait naturelle avec une guitare à peine accordée. Vous voyez, il ne s'intéresse pas à la technologie ou à la qualité de la réalisation. Ce qui l'intéresse, c'est la sincérité, l'authenticité de la performance. Et pour moi, il y a une très grande beauté là-dedans.
Alors, il est question dans le film de la créativité véritablement du personnage de Frank. Au niveau du cinéma, justement, que fallait-il inventer de votre côté, Lenny Abrahamson, pour être à la hauteur du côté expérimental de votre Frank?
Eh bien, il nous a fallu inventer ce groupe de musiciens. On a mis en place des règles de base, à savoir toute la musique serait enregistrée live, les comédiens jouent leur propre instrument. Et ça, on le retrouve pratiquement jamais dans le cinéma, parce que c'est très difficile, évidemment, à réaliser, et c'est un peu risqué. Donc, il nous a fallu créer un groupe, des chansons et des improvisations qui avec un sentiment de naturel et d'authenticité. Et évidemment, il nous a fallu trouver des comédiens capables de faire de la musique et il nous a fallu créer de la musique pour répondre aux capacités de musiciens et comédiens. On les a rassemblés et ont essayé de créer une identité de groupe pour que ça soit authentique. C'était ça le plus gros défi. Et puis ensuite, on s'est lancé dans l'histoire cinématographique. Plutôt que de fabriquer les images, on leur a dit, les gars, allez-y, puis nous, on va faire le film derrière.
Michael Fassbinder est musicien.
Oui, il a une grosse, très belle voix de chanteur. Et puis, il sait jouer de la guitare, il n'est pas mauvais guitariste. Et puis, c'est un showman, et puis il sait quoi faire sur scène. Donc, Michael sait imiter des sons bizarres. Par exemple, un passage piéton, vous appuyez sur un bouton et les aveugles entendent un son. Ben, celui, c'est imiter le son. Par exemple, il sait imiter les sons qu'on a dans la cuisine avec les appareils électroménagers. Donc, il était ravi quand je lui ai proposé le projet. Il m'a montré comment il faisait le son de la trompette, il fait le son de sa montre numérique. Donc, vous voyez, c'est un type qui a vraiment le sens de la musique. Et Maggie aussi, qui a une très belle voix.
Benoît. À propos d'expérience, une question à celui qui a suivi des études de philosophie et de physique au Trinity College de Dublin. Que doit votre cinéma, ce double enseignement? Parce que finalement, votre cinéma, il est pensée et mécanique.
I think the philosophy degree, or the, maybe it's better to say that whatever whatever impulse made me study philosophy.
Alors, qu'est-ce qui m'a fait étudier la philosophie? Eh bien, c'est vraisemblablement la même chose qui m'a fait devenir réalisateur. Je veux m'éloigner de perceptions prédigérées du monde. Les philosophes sont censés remettre en question, voire détruire la pensée habituelle de manière à voir les choses de manière nouvelle et vraisemblablement plus proche de la vérité. Et les réalisateurs font la même chose. Ils essayent de jeter sur la vie et sur le monde un regard inhabituel, un petit peu iconoclaste, hétérodoxe à tout le moins, pour trouver de nouvelles façons d'exprimer les choses. Comme cela a été dit précédemment, on essaye de toucher du doigt l'inattendu, ce qui n'a encore jamais été vu, mais que l'on peut quand même reconnaître.
Ce que l'on entendait tout à l'heure avec nos deux autres invités musiciens. C'est parallèlement à vos études, je sais que vous cofondez la société Trinity Video Society afin de réaliser vos premiers courts-métrages. On est à la fin des années 80, début des années 90. Quelles expérimentations mettez-vous alors à l'heure au sein de cette société?
À cette époque, il était possible d'acheter du matériel vidéo. Les premières caméras vidéo étaient abordables. Les gamins pouvaient économiser des sous et s'acheter du matériel. Et donc, nous voulions nous emparer de cette technologie pour travailler sur nos propres projets, alors que c'était impossible de l'envisager en 35 mm ou même en 16 mm avec du matériel de cinéma. Donc, avec la vidéo, on a fait plein de choses. Et du reste, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai été sur les bancs de la fac en physique. Il est aujourd'hui professeur ici à Paris, mais lui, il travaille encore sur ses projets de vidéo. Il est cofondateur de cette société avec moi. Vous voyez, je ne suis pas le seul physicien réalisateur dans la ville de Paris. Mais pour revenir à votre question, on a fait des documentaires, des choses comme ça, à mesure qu'on utilisait la vidéo un petit peu mieux. Puis on s'est lancé dans la fiction, et puis on a commencé à savoir où on voulait aller. Et quand j'étais diplômé, j'ai fait mon premier court-métrage, qui a assez bien marché dans les festivals, et du reste, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier.
Et là, je suis arrivé dans un univers incroyable.
Merci à nos invités. Édouard Ferlet, vous serez sur scène au Bouffe du Nord à Paris le 24 janvier dans le cadre du festival Beyond My Piano et en concert avec Jean-Philippe Viré et Fabrice Moreau le 7 février à Vincennes et le 3 mars au Café de la Danse à Paris. Et puis je signale que votre album L'Ineffable a paru sous le label Mélisse. Lenny Abrahamson, Franck, il va falloir attendre un peu. Dans 15 jours, ce sera la sortie en salle le 4 février. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Ouverture du magasin dans 4, 3, 2, 1, ouverture.
Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir.
Avec la banane.
Demain, émission Filles, Discount et Banane avec la romancière Juliette Kahn et la comédienne Corinne Maziro. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Lucille Comeau, Aïssatou Ndoye et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture aux OSFES, Chronique Vanity Fair Anne Boulet, à l'interprétation Xavier Combes, à la prise de son Jacques Hubert et Alex Tang et à la réalisation Thomas Beau.
On dit Madame Anne Boulet pour Vanity Fair.
Merci, je n'ai pas 90 ans.
Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours ou la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Ça paraît long, hein, 1000 jours, Anne Boulay.
Très très long, surtout quand t'as 90 ans.